Pour poursuivre ce culte, et avant de laisser Roger nous apporter la parole du Seigneur, je vais lire un miracle. C'est dans Marc 4. Les versets 35 à 41. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?»
Nous allons demander l'aide du Seigneur. Regardez. Ce texte en Marc 4. Seigneur, nous nous trouvons facilement à la place de tes disciples d'alors. Nous ne comprenons pas ce que tu fais, surtout au milieu de nos tempêtes. Et pourtant, tu es là, présent. Nous te prions de nous éclairer par ta parole, de venir parler à nos cœurs par ton esprit. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, d'entendre ta voix. Et nous te prions que nous puissions être encouragés, fortifiés en toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce même jour, sur le soir, verset 35, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Et après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait déjà. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. J'aimerais juste situer notre passage là où il se trouve. C'est dans l'évangile de Marc, deuxième section, nous abordons. Et le contexte, c'est l'incrédulité. Même la famille de Jésus est venue le voir parce que il se demandait, mais est-ce qu'il allait vraiment bien? Et les scribes, descendus de Jérusalem, ils sont encore plus virulents et c'est carrément le rejet. Après que Jésus s'est annoncé comme étant le Fils de Dieu. C'est comme ça que Marc, nous nous souvenons, a ouvert son évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais maintenant, il y a rejet, même mépris. On va le taxer de Fils de Marie, sous-entendu qu'il était fils illégitime. Et au milieu de cette ambiance d'incrédulité, Marc place quatre paraboles et puis quatre miracles. Marc, donc, il a choisi, il a fait un tri dans les paraboles que Jésus a racontées parce qu'on sait, par exemple, des mêmes paraboles, Matthieu, lui, va en raconter sept. Marc va se limiter quatre paraboles, quatre miracles. Les paraboles parlent de semences, mais relève la réalité de l'opposition qui est présente. Satan peut venir enlever le grain semé. Mais les paraboles parlent de croissance et de moisson. Jésus n'ignore pas la réalité du temps présent, mais annonce ce qui va encore venir. Donc, Marc dévoile la mission de Jésus. Une confrontation directe avec l'adversaire, Satan. Jésus va agir face à l'œuvre de l'ennemi. Et il va démontrer, comme nous a signalé Catherine, sa puissance. Tout cela va se passer autour du lac de Génézareth. Mais qu'est-ce que Marc veut nous enseigner dans son choix de texte? Qu'est-ce qu'il a à nous dire à nous ce matin? Quelles sont les conséquences pour les hommes, les femmes qui croient en lui? On a dit que toute cette section est tournée autour de la question de la puissance que Jésus manifeste. Les puissances hostiles à Dieu sont maîtrisées. Qui est donc cet homme? L'homme fort qui a maîtrisé la maison est maintenant lié par un homme plus fort. C'est encore dans cette section. Et Marc va l'illustrer en montrant que Jésus est maître sur la nature, la tempête. Dans le domaine spirituel, c'est ce qui suit notre texte ce matin, le démoniaque qui s'appelle Légion, l'homme délivré. Dans la maladie, la femme avec la perte de sang qui sera guérie et la fille de Jairus relevée d'entre les morts. Voilà pour notre contexte. Jésus dans la tempête avant d'arriver à Jésus dans nos tempêtes. Jésus dans la tempête, eh bien, je vous apprends rien, il dormait. Cette tempête si violente, c'est un récit de témoin que nous avons devant nous. Il y avait, c'est un détail, on pourrait dire sans importance, qu'il y avait d'autres barques autour. Ils ont vu, c'est probablement Pierre qui racontait ses histoires et Marc les a mis par écrit dans son évangile. La barque se remplissait. Il en constatait, c'était progressif. Et voilà le détail de Jésus en train de dormir à la poupe sur un coussin. Ils l'ont vu. Ils étaient témoins de cet événement étonnant de la puissance de Jésus. Ils l'ont vu. Et ils étaient incrédules. Eux, les disciples, ne sont pas mieux que les autres pour le moment. Nous, nous périssons. Et toi, ça ne te fait rien. Et cette réaction des disciples, on va le voir toujours à nouveau dans l'évangile de Marc. Ils vont dire, mais maître, tu vois que tout le monde te touche. Comment tu peux dire une telle chose qui m'a touché? Tu nous invites à nourrir cette foule, mais même si on sortait le salaire de plus qu'une demi-année, on n'aura pas assez pour les nourrir. Les réactions des disciples est toujours à nouveau relevées par Marc et c'est des réactions peu respectueuses. Et puis, Marc veut souligner l'action de Jésus, le pourquoi de son ministère. Jésus démontre que ce qui est vrai pour le Dieu d'Israël est vrai pour lui aussi. Le Dieu d'Israël est le Seigneur de l'histoire et maître de sa création. Il a prouvé dans l'Exode, entre autres. Eh bien, Jésus est maître de sa création. La foi en Jésus, ce n'est pas une adhérence à une philosophie quelconque. Ça amène la démonstration de la puissance du royaume de Dieu. Dieu agit, Dieu est vivant. Jésus s'adresse à la force derrière ces événements. Silence, tais-toi. Et sa parole fait autorité. Il s'adresse de la même manière qu'il s'est adressé aux pauvres gens dominés par les mauvais esprits dans le premier chapitre déjà et par la suite dans l'Évangile. L'autorité de Jésus est incontestable, incontestée. Donc Marc dévoile le Sauveur qui est venu se présenter au milieu de nos situations, de notre situation de vie tellement périlleuse. Le Sauveur a envahi la maison de l'homme fort. Et Jésus, au milieu de tout ça, il dormait. Non pas comme Jonas qui dormait parce que c'était la fuite de la réalité. Jésus a entière confiance dans ce que son Père lui a appelé à faire. Et il nous invite à la même confiance. Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Et le vent et la mer cessera d'être agités. Voilà le récit que Marc nous raconte. Il nous le raconte pour nous dire aussi que ce même combat est le combat de l'Église aujourd'hui face à l'adversaire. Mais j'aimerais maintenant parler de Jésus dans nos tempêtes. Jésus dans nos tempêtes. Nous, nous périssons. Et toi, tu ne te soucies pas. Qu'en est-il au cœur de nos tempêtes que nous traversons? Notre passage nous montre, de par son contexte, j'avais dit que le texte suivant, c'est le démoniaque qui sera délivré, que les tempêtes précèdent souvent de grandes victoires de la part du Seigneur. Je lis juste le début du récit. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Gérasséniens. Aussitôt que Jésus débarquait, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Jésus intervient et les gens allèrent voir par la suite ce qui était arrivé. Et ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. L'ennemi agit pour intimider, semer la peur, irriter, opprimer, supprimer l'image de Dieu en nous, Jésus manifeste la puissance libératrice du royaume qu'il est venu instaurer. Les tempêtes peuvent précéder les plus grandes victoires du Seigneur. Vous avez remarqué que Jésus dit « Silence, tais-toi ». Jésus discerne la source de la tempête et il nous invite de faire pareil. Résistez à l'ennemi et fuira loin de vous. Être dans une tempête ne veut pas dire qu'on est sorti quelque part de la volonté de Dieu. Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Ils font exactement ce que Jésus leur a dit. Faire ce que le Seigneur nous dit ne veut pas dire que tout va baigner dans l'huile. Leur vie même était menacée. Et il faut surtout ne pas être dans l'idée que parce que nous sommes dans une tempête, quelque part on est sorti de la volonté de Dieu. On peut s'examiner, mais souvent c'est tout le contraire. Vous vous souvenez de Paul, l'apôtre Paul qui était jeté en prison à Philippe. Pourquoi il était à Philippe, dans la ville de Philippe? Parce qu'il a eu une vision même, un homme qui l'appelait à aller justement là-bas. Et voilà qu'il se trouve en prison, de quoi s'interroger, est-ce que je suis vraiment là où Dieu me veut? Ne vous laissez pas accuser que parce que vous êtes dans la difficulté, Dieu, quelque part, n'est plus avec vous. Dans la tempête, on a constaté que les disciples ont eu la bonne démarche. Ils sont allés vers Jésus, mais avec une mauvaise motivation, l'incrédulité. Ça ne te fait rien que nous, nous sommes en train de périr. Dans la crainte, l'incrédulité, plutôt que dans la foi, dans l'attente, dans la confiance. Jésus invite à la confiance dans les tempêtes et il fait appel à notre courage. Parce que la foi, notre foi, est également pour les tempêtes. Pas que pour les mers calme. Jésus était dans la paix, dans la tempête, et il se fit un grand calme. Comme il se fit un grand calme dans la vie de ce pauvre homme délivré de cette multitude d'esprits mauvais. La venue du royaume de Dieu, de l'Esprit de Dieu, commence à mettre de l'ordre dans des vies où les tempêtes de la vie ont fait des ravages. Jésus, dans notre tempête, amène le calme. Et puis, le passage, conclusion du passage, ils furent saisis d'une grande crainte, verset 41, et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Même le vent et la mer lui obéissent. À travers vent et marée, maîtrisé, Jésus révèle sa puissance qui il est. Nous avons vu le contexte de notre passage, c'est l'opposition. Les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui. Il disait, il a perdu le sens. Les scribes venaient et ils disaient, un esprit impur est en lui. Pour certains, ce serait l'opposition. Certains vont le suivre. C'est la parabole du semeur. Pour certains, ce sera l'incrédulité. C'est la fin de notre section, chapitre 6, verset 6. Jésus s'étonna de leur incrédulité. Certains vont croire, comme cet homme apaisé de nouveau dans son bon sens. Pour certains, ce sera la moquerie. Tu dis qu'elle dort, mais nous sommes là, nous avons vu qu'elle est morte. Pour d'autres, ils verront la puissance de Dieu. Marc, donc, veut démontrer que le royaume de Dieu s'est manifesté avec puissance dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus se manifeste dans nos tempêtes parce que le royaume de Dieu est parvenu aussi jusqu'à nous. Dans les tempêtes, Jésus veut susciter la confiance. Dans nos tempêtes, Jésus veut augmenter notre courage. Et dans les tempêtes de la vie, Jésus veut démontrer sa puissance. Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Confiance, courage, je suis là au milieu de vos tempêtes. Amen.